lundi matin enneigé, mesdames, messieurs, bienvenue au show du matin. Maxime Augustin, votre animateur pour ce matin. Jean-François a un petit problème avec son véhicule électrique. On a la chance de recevoir aujourd'hui le Barbu de Ville. Comment vas-tu, Barbu?
Oh, super bien, merci.
Good. Et notre invité aussi va être Daniel Richard. Daniel, comment ça va?
Salut, ça va très bien. Merci de m'accueillir, les boys, bien gentil.
Good, super. J'en profite de l'occasion pour vous dire que vous pouvez nous suivre sur la page Facebook du show du matin, ainsi que surtout, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Radio H2O. Sans plus tarder, on passe au Barbu de Ville qui va nous parler des rebelles des Laurentides. Barbu, à toi le micro.
Oui, monsieur. Vous savez, dans les années 50, il y avait un club qui s'appelait les Dodgers de Brooklyn. Eux autres, là, ils ont dominé, là, dans les années 50, là, ça dominait de avril à octobre. Quand octobre arrivait, ils perdaient toujours en finale contre les méchants bombardiers du Bronx, les Yankees de New York. Mais pendant la saison, pendant l'été, c'est pour ça qu'on les appelait les Bulls of Summer, faisaient juste gagner. Cet été, on a eu cette version-là, U16, les rebelles des Laurentides, mais eux autres, ils ont gagné un petit peu plus que les Boys of Summer, puis on les appelait les Girls of Summer. Un été qui restera gravé dans ma mémoire à jamais. L'été 2021, malgré la sacro-sainte pandémie, fut baseball. Elle fut à la hauteur de Abner Doubleday lui-même, l'inventeur de la balle. Des joies, des peines, des circuits, des strikeouts, des vols de but, des fausses balles, faut pas! Des sourires, des grimaces, des tailgates à chaque partie à l'étranger, avec les parents d'ailleurs, je les salue. Surtout, ils vont se reconnaître, les bonnes femmes en avant avec la musique. Salut les bonnes femmes, ça va les faire rire. C'est une équipe avec un esprit, je te dirais, rarement vu. Je vous les présente, chacune d'eux. Je commence par Naya Bouchard, que j'appelais affectueusement Naya. Notre joueuse de rugby, métronome au monticule, toujours prêt à jouer, leader à sa façon. Elle comprend la game comme j'ai rarement vu. Léandre Godmire, Flash. Pour aussi vite que Flash McQueen et de sa génération, si tu veux. Elle vole des vues comme d'autres respirent. Elle fabriquait des points à elle seule. Elle, c'est une manufacture à points. Pas besoin de coussure avec elle, là. Tu te rends ses buts parce que tu t'es fait toucher par la balle, parce qu'il y a un but sur balle. Oups, qu'est-ce que tu sais? 3 minutes plus tard, t'es au marbre pis t'as pas compris pourquoi. Eliane Pomerleau. Eliane, ça, c'en est toute une, Eliane. Miraculée d'un grave accident l'hiver d'avant, en skidoo, plus capable de marcher. Ben, est revenue notre King Kong, comme les filles l'appelaient, a fait un retour au jeu réussi cette année. Un miracle. J'entends encore son bon ton résonner de puissance. C'était l'une de nos deux frappeuses de circuit dans l'équipe. Victoria Surette. Elle lançait des petits pois numéro 2. C'était notre assurance tout risque au monticule. Une fois Vic, ça bute littéralement le temps s'arrêtait. J'avais un plaisir incroyable à regarder cette fille-là lancer. Je vais vous le dire, là, moi, avec mes 48 ans de bonhomme hockey boomer, mais même je suis pas un boomer, j'aurais jamais, moi le dire honnêtement, là, j'aurais jamais pensé avoir autant de plaisir à voir lancer une fille. Bon, on va se le dire, quand j'étais petit cul dans le petit Canada, puis j'avais 7-8 ans, 10 ans, on faisait des équipes, on prenait les filles en dernier. Mais tel n'est plus le cas aujourd'hui. Je continue, excusez-moi. Frédéric Noël, alias Fred, notre bout en train, notre clown. Mais game face quand c'est le temps. Une catcheuse d'exception qui déteste la défaite. Fred et son bras bionique. Leader positif vocal. Une des deux membres du mur, The Wall, quand il jouait à la réco. Mathilde Beauséjour. Ben, ma fille. L'émule, rien de moins, mesdames et messieurs, que Cody Billinger. Troisième but qui peut aussi lancer. Membre officiel du mur, The Wall, avec Fred. Elle frappe avec beaucoup de puissance. Elle aime le baseball comme j'ai rarement vu. Probablement qu'elle aime le baseball plus que son bonhomme. Marianne Levasseur. Elle fait preuve de beaucoup de caractère cette année. Elle a fait preuve de beaucoup de caractère. Mes liaisons, s'il vous plaît. Un exemple de détermination après avoir reçu une balle en plein visage à Saint-Hyacinthe. On s'en rappellera. Drette sur le nez. Elle était de retour la semaine suivante malgré son look de raton laveur. Un beau raton laveur, par exemple. Faut que je le dise, Marianne. Viviane Coton. Ça, c'est un numéro. Vie vétéran que toute équipe voudrait dans ses rangs. Vie parle sans cesse. C'est un moulin à parole, même avec ses adversaires au marbre. Ça, d'ailleurs, pendant la saison, avec les arbitres, ce fut un léger problème. Faut savoir que Vie, c'est un peu la Brad Marchand du baseball. Catherine Cavano, notre Catou, malgré un été très difficile au plan personnel, a pas manqué une partie. Toujours au rendez-vous. Et ça, c'est beaucoup. Beaucoup, beaucoup de caractère, notre Cat. Puis je le souligne. Parce que je le sais que le coach écoute. Et un élan au bâton à faire rougir plusieurs joueurs et joueuses. Un genre d'élan à la Ken Griffey Jr., je dirais. Maxime Lanouette. Maxu! Il faut pas se fier à son joli sourire. C'est une joueuse impitoyable. Oubliez la petite blonde aux yeux bleus, là. Pas ça, là. Max était régulière au monticule, un métronome aussi. D'ailleurs, sa butte, elle pouvait être intimidante pour les autres équipes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de caractère. Rose Desmets, lance en finesse, toujours prêt pour une partie. Les deux à sa façon. Elle avait le don de frapper le coup sûr pour nous réveiller. C'est pour ça que des fois, je l'appelais... Wake up! Les rebelles, ce sont aussi des coachs exceptionnels. Vraiment. Serge, Sylvain, Mathieu et le chef d'orchestre de tout ça, l'ineffable Kevin Cavano. Nous avons été choyés cette année. Merci les mauves, parce qu'on était mauves et gris. Nos rebelles gravés à jamais dans notre mémoire de parents. Pour le vrai. Ça m'émeut de dire ça parce qu'on a tous vécu ça avec eux. Hein? En saison, 15 victoires, 5 défaites. Une finale provinciale contre la terrible équipe de Québec. Incroyable. Et gagnant du régional. Hey, pour une dernière fois, puis je l'ai promis aux filles, je sais qu'ils sont. Ils devraient être tous à l'écoute un matin, là, ou à peu près, là, avec cette belle tempête. Pour une dernière fois, ici. Sur le podcast de Baseball Québec, pour les filles, un cri qu'ils aimaient beaucoup entendre pendant les games. Attachez vos tucs, là, baissez vos micros, ça va faire du bruit. Mimi. OK. Purple Cat!
C'est bon, ça. Et finit, voilà. Mon... Et voilà. Bravo, Barbu. Excellent. Dan Richard, connaissais-tu le Barbu de Ville?
Oui, j'avais déjà entendu parler. Oui, oui, j'avais déjà entendu au 91-9, c'est même moins pas.
Ouais. T'en plains ça, Dan. Merci.
Exactement. Ouais. Exactement. Merci beaucoup, Barbu. Excellent.
Hey, merci, Max.
Ça fait plaisir.
Salut, Barbu. Bonne journée.
Hey, hey, merci à vous autres. Bonne journée à vous autres.
Yes, sir. Tu peux rester avec nous, Barbu, si tu veux, pour parler avec
Dan.
Mais oui, puis si tu as des questions, n'hésite pas. On reçoit notre invité, Daniel Richard, du RDS.ca. Daniel, comment ça va?
Yes, ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir. Bien gentil. Ouais, je suis un habitué, d'ailleurs, du show. Puis c'est plate que JF soit pas là, parce que j'étais un habitué aussi du podcast qui faisait Les Agents Libres. Simon Warren Bond, j'en ai écouté.
Ouais, avec Corbeil, David Corbeil.
Ouais, exactement. J'ai surtout écouté, tu sais, souvent, ça arrivait qu'il a reçu des collègues, là. Fait que j'ai écouté ça aussi. Puis,
d'ailleurs, Dan, ils ont fait un épisode avec le Barbu de Ville, eux autres, OK? Je leur avais dit, je veux battre le plus gros épisode de Joe Rogan qui avait duré 4h12.
As-tu marché?
On a fait 6h30.
Oh, 6h30.
Beaucoup de vin et de houblon. On a gardé sur tout ça 30 minutes. Okay.
Il y avait du contenu.
Les 30 minutes les plus potables, c'est ça.
Oui, exactement. C'est ça.
Exactement. On reçoit Daniel Richard aujourd'hui parce que Daniel, tu es un fan de baseball. Ouais. J'aimerais ça que tu nous racontes ton histoire d'amour un petit peu avec le baseball. Puis ton rôle, t'en parles souvent. T'es tout le temps impliqué dans tout ce qui est relié au baseball pour RDS. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu ton histoire.
Ben, ma passion pour le baseball, ça commence avant même que je puisse m'en souvenir. C'est probablement mon père, tu sais, qui est un maniaque de baseball, ben, qui l'était avant moi puis qui l'est encore aujourd'hui. Tu sais, je pense que là, moi, j'ai 33 ans. Fait que dans le temps, si ma mémoire est bonne, ça s'appelait pré-novice. Si j'ai commencé à jouer au baseball avec le T-ball, pré-novice, novice, à ton moustique. Puis j'ai 33 ans, puis je joue encore. Fait que ça a tout le temps... Honnêtement, ça a tout le temps fait partie de ma vie. Ça a tout le temps fait partie de mes étés. Puis depuis, 10 ans, ben c'est un peu ce qui m'aide à payer mon hypothèque, finalement. Puis, tu sais, à RDS, on dirait que dès que je suis arrivé, j'ai voulu un peu... Tu sais, je suis un maniaque de hockey aussi, là, depuis à peu près le même temps que le baseball. Mais on dirait que quand je suis arrivé à RDS, j'ai tout le temps voulu me diriger vers le baseball le plus possible. Fait que quand j'ai commencé à soit écrire des textes pour le RDS.ca, soit faire du reportage, ben souvent ce que je proposais, ça avait rapport avec le baseball. Puis surtout, ça avait rapport avec le baseball au Québec. Parce que on n'a pas d'équipe à Montréal, le baseball professionnel, on n'y a pas accès tant que ça. On y a accès un petit peu plus depuis que Abraham Taureau était là. Remarque, on y a eu accès quand même avec Russell Martin aussi, là, mais les fois qu'on peut y goûter, RDS, c'est souvent si on va voir Abraham ou ceux qui étaient là avant moi qui allaient voir Russell. Fait que la façon d'y toucher un peu pour moi, c'était de parler des espoirs. Tu sais, Abraham Taureau, quand j'ai commencé à parler de lui, il était dans le, je sais même pas s'il était dans le 2A, il était peut-être pas encore Charles Leblanc, ou parler des mangeurs québécois. Même chose aussi, on est allé voir, je pense, le demain, on est allé voir Simon Lusignan quand il avait 14-15 ans, tu sais, puis qui lançait déjà des petits pois. Fait que ça a tout le temps, c'est le fun parce que c'est pas tant non plus de quoi qui est si, il y a Ben Rio, là, que je pense qu'il fait un excellent job, là, que ouais. La plupart des amateurs de baseball au Québec s'y connaissent, qui fait un excellent job de parler des meilleurs joueurs québécois, mais ça a pas été de quoi qu'on parlait si souvent. Fait que puis ça a pas, les gens au Québec connaissent pas nécessairement Charles Leblanc ou là, ils connaissent Abraham Taureau, mais ils connaissent peut-être pas le 4-5 ans, Otto Lopez, la même chose. Fait que si on peut aider à faire découvrir ces joueurs-là qui sont, s'ils étaient des joueurs de hockey, ils seraient assurément connus au Québec. Si on peut les faire découvrir, ben, tant mieux. Puis c'est ça que j'aime faire, notamment à RDS.
Oui, absolument, parce que tu sais, quand tu regardes dans le hockey au Québec, tu as le LHJMQ, bon, tu sais que les meilleurs espoirs se retrouvent là. Au baseball, au lieu de faire une ligue, ben nous autres, on fait un seul programme qui regroupe d'habitude les meilleurs joueurs, les 60 meilleurs joueurs au Québec. Fait tu sais, toute la crème finit par y passer, puis tous les gars que tu as nommés ont tous passé par l'Académie de baseball du Canada. Fait que, tu sais, c'est une belle structure, puis elle gagne à être connue, puis c'est une structure absolument qui est là depuis 1991, là. Ça date, là. Ça fait 30 ans que ça existe, l'Académie, puis nomme-les, là. Éric Gagné, Steve Green, Russell Martin, Ivan Nakarata, ça a tout passé par là, toute la gang.
Exact.
Fait que Abraham Taureau fait pas exception, Charles Leblanc fait pas exception.
Ouais.
D'ailleurs, t'as eu la chance de parler à Abraham Taureau, je pense, en fin de semaine, ça se peut-tu? Comment qu'elle est?
Oui, exactement, elle est très bien. C'est le fun. C'est quoi? C'est le fun d'y parler après cette. J'étais allé voir Abraham là, en 2019, je pense, son premier. Ouais, 2019, son premier été dans le baseball majeur. Puis c'est bon, ça, j'ai de quoi de bon pour vous autres. Je vais le voir. Il jouait, c'est sa première série au Canada. Fait qu'il jouait à Toronto. Ça faisait peut-être 2-3 semaines qu'il avait été rappelé. On va le voir. On est là le vendredi puis le samedi. Il joue une série de 3 matchs. Fait qu'il joue contre les Blue Jays. Le vendredi, on est là. Il joue pas. Bon, ça se peut. Tu sais, je pense que Bregman était blessé à ce moment-là, mais tu sais, il avait pas tous les départs au troisième. Fait qu'il joue pas le vendredi. On est là un peu pas pour rien parce qu'on y parle quand même. Puis on peut entrer dans le vestiaire. Puis, tu sais, on peut quand même faire de quoi avec, mais c'est pas du joue pas. Le samedi, il joue. Il est 0 en 4. Je pense qu'il y a 2 ou 3 rétro bâtons. Je pense que c'est 2 rétro bâtons. Puis, il n'est pas sorti à la balle du Diamond, mais il y a un rouleur lanceur, puis un rouleur, je me rappelle plus où. Fait que, tu sais, on est là, tu vas le voir dans le vestiaire, mais puis les Astros avaient perdu en plus. Fait que, c'est pas les circonstances idéales. Lui, ça ne tente peut-être pas tant de parler après un 0 en 4 puis 2 retours au bâton. Fait que là, nous autres, le billet d'avion il était seté. On repartait le dimanche matin, la chambre d'hôtel, il n'y avait plus de chambre d'hôtel, tout ça. Puis je sais pas si les gens vont se rappeler, le dimanche, Justin Verlander lance un no-hitter, puis Abraham Toro frappe le circuit contre Ken Giles en début de 9e, qui a fait que Verlander ouais. peut avoir le match en point du coup sûr. Puis moi, au moment où est-ce que ça se passait, j'étais de retour dans mon coin, puis je jouais au golf à l'Épiphanie, puis je suivais ça sur mon téléphone, puis j'étais comme... Je peux pas croire que j'étais là vendredi, puis qu'il jouait pas, puis que je suis pas là dimanche, puis qu'il... Tu sais, qu'il... À 3 semaines d'ancienneté dans le baseball majeur, il connaît peut-être le match qu'il va se rappeler de toute sa vie, même s'il joue pendant 15 ans. T'sais. Ça fait que ça pour dire que ouais, en fin de semaine, c'est cool de pouvoir y parler parce que c'était la première fois qu'on y parlait après qu'il puisse avoir bâti sur un quoi, t'sais, 2 mois, full à être partant puis à avoir répondu aux attentes aussi. T'sais, c'était surtout ça qui est. C'est le fun d'aborder, surtout avec les athlètes professionnels que tu rencontres pas souvent. C'est même plus le fun d'aborder leur réussite que.
Ouais.
Quelqu'un qui l'arrache. T'sais, c'est plus fun pour eux autres, c'est plus fun pour nous autres aussi. Surtout un joueur comme Abraham Toro, malgré la neutralité qu'on est supposé avoir, on lui souhaite juste du bon. Là, on souhaite qu'il puisse s'établir dans le baseball majeur. Fait que ça, c'était le fun. Son frère était là aussi. Son frère était super content pour lui aussi. Fait que non, il était bien disposé. Puis ce que j'ai aimé, on l'entend aussi dans les médias que les Mariners veulent s'améliorer. Ils veulent être insérés l'année prochaine. Ils vont aller chercher un excellent joueur de deuxième but qui, vraisemblablement, va prendre le spot au deuxième. Il y a des rumeurs qui veulent aller chercher Chris Bryan, qui va probablement prendre le spot au troisième, puis jouer dans le champ aussi. Mais honnêtement, ça avait zéro l'air d'ébranler, même dans le non-verbal, ça avait zéro l'air d'ébranler sa confiance à Abraham. Puis le mieux résumé qui compte, c'est dit, si je frappe, puis... Finalement, si je frappe, ils vont me trouver une place. Puis c'est vrai. Là. Tu sais, s'ils sont pas capables de l'enlever du line-up offensif, ils vont le mettre dans la gauche. Puis oui, tu sais, ils vont le mettre au troisième but des fois quand Bryan va jouer dans la gauche. Ils vont jouer partout, mais ils vont trouver un moyen de le faire jouer. Fait que ils se responsabilisent d'une façon. Puis je pense que c'est la bonne attitude à avoir pour un gars qui, dans un marché, dans un domaine aussi compétitif, veut faire sa place.
Ouais, j'en ai parlé souvent ici au podcast, Abraham Toro. Quand j'ai fait mon voyage avec l'équipe nationale, il était dans les discussions pour aller à l'équipe nationale, puis j'ai été un de ceux qui avait la pancarte d'Abraham Toro dans mes mains pour l'amener, puis la discussion que j'avais avec Greg Hamilton, c'est il est bon partout, j'aime ce que je vois, mais je vois pas le plus qui fait qu'il va amener à mon équipe que j'ai besoin. Puis puis Abraham, ça l'a jamais brandé. Puis c'est sûr que c'est une déception, mais Abraham, c'est ici où ce qui s'en va. Puis il regarde son objectif, puis il avance. En autant qu'il continue à avancer, tout va bien. Il y a une super belle attitude par rapport à ça. Puis honnêtement, là, ceux qui ont la chance de discuter avec Abraham, là, allez-y. Un, il est super gentil. Il a tout le temps du temps.
Ben ouais.
Puis il est déterminé. Honnêtement, là, c'est un athlète au niveau de la détermination puis de l'attitude. Là, c'est exactement ça que ça prend pour aller au prochain niveau. Puis je suis content que t'aies vu ça.
Sauf si t'es... Un Carlos Correa ou un Fernando Tatis ou un... Tu sais, le gars qui va signer 10 ans puis qui va jouer à la même place pendant 10 ans. Sauf si t'es ce joueur-là. Tu feras pas une carrière si t'as pas une éthique de travail. Tu feras pas une carrière si t'as, à ce niveau-là, si tu donnes pas quelque chose de plus que les autres. Je suis certain qu'il y a des gars qui vont jouer 50, 60 games dans le baseball majeur, qui ont probablement des meilleures mains. Qui ont probablement plus de puissance naturelle. C'est sûr. T'sais, c'est comme ça dans tous les sports. C'est la même chose au hockey. Tu vas voir des joueurs qui vont jouer dans la Ligue américaine pendant 12 ans avec des mains exceptionnelles, avec un sens de jeu exceptionnel, mais sans dire qu'ils n'ont pas mis d'efforts. Il y a quelqu'un qui va en avoir mis plus qu'eux autres. Puis ça, moi, je connais pas Abraham depuis l'adolescence, comme toi, tu peux le connaître, tout comme son frère peut le connaître, évidemment, tout ça. Mais à tous les fois que je parle de quelqu'un à propos d'Abraham, c'est tout le temps... Qu'est-ce qui revient? C'est tout le temps que lui, tu sais, c'était comme tranquillement pas vite, il avançait, il se décourageait jamais, puis il prenait tout le temps un step de plus. Dans le baseball mineur, ça a été ça aussi. T'sais, il n'y a jamais vraiment eu de gros slump là, dans le baseball mineur. Il n'aurait probablement pas pu se permettre ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, il est rendu ce qu'il veut, puis il est dans bonne position pour avoir une bonne carrière.
Oui, exact.
Il y a un caractère exceptionnel. C'est ça qui est rendu là. Il y a bien des gars, moi, que j'ai vu. Pour connaître le baseball là, au Québec, là, j'ai vu bien des gars à son âge là, qui étaient plus talentueux que lui. Là.
Surtout venant du Québec, tu sais, c'est pas le marché.
Ben oui.
C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Là. Ça, 6 mois dans l'hiver, ici, c'est très difficile de continuer à performer à un même niveau qu'un Dominicain ou un Américain. T'sais, évidemment qu'il y en a beaucoup qui s'en vont dans les collèges américains, mais c'est assurément une épreuve de plus.
Absolument.
Percer les majeurs. percé les majeurs. On n'a pas idée, là. Pas juste pour un Québécois, là. Le Hall, 2 Hall, 3 Hall, puis avoir. Il y a tellement
des bons joueurs. De repêchage.
Ben oui, il y a tellement des bons joueurs. Souvent, les gens n'y ont pas idée, là.
Ouais, les gars de la baseball mineur, là, quand arrive la date du repêchage, là, tout le baseball mineur est nerveux. Là. Parce que là, tu rentres 20 nouveaux gars, à peu près. Mais avant, c'était 50, ça a descendu à 40. Là, ça descend à 20, mais c'est 20 nouveaux joueurs. Fait que là, tes receveurs, tu regardes, oups, on vient d'en drafter 3. Où c'est qu'ils vont jouer eux autres? Ils s'en viennent prendre mon spot, là.
Ben oui, puis c'est pas des piments, là. C'est des joueurs draftés, c'est pas des piments, là. Ils sont bons,
exact.
Là.
C'est tous des bons joueurs. Là, t'es plus collège américain, là. T'es baseball professionnel, minor leaguer, là. La pyramide, elle commence à devenir pointue. Là, tu deviens nerveux. Fait que c'est de même, ça se vit. Daniel, je voulais aborder avec toi avant qu'on se quitte le retour des expos. Tu te situes où par rapport à ça, toi?
Ben écoute, c'est sûr que pourrait mourir heureux là, moi, là, avec le retour des expos. Ils sont partis en 2004, j'avais 16 ans. Enfin, je sais pas si j'avais encore, je sais pas si j'avais mon permis à ce moment-là, mais quand j'y allais, il fallait que mon père y aille. Heureusement, c'est un gros fan de balle, mais il fallait que quelqu'un vienne avec moi. Fait que c'est ce truc-là, moi, souvent j'entends, si je prenais mon char puis je m'achetais des billets à 7$ dans le pit, puis je descendais, je faisais ça une fois par semaine. T'sais, ça, c'est ça. Mais moi, j'ai jamais vécu ça. Si je pouvais en plus le vivre en étant mêlé là-dedans, en travaillant, c'est sûr que ça serait exceptionnel. Écoute, la garde partagée, si c'est le moyen de... C'est sûr que c'est pas l'idéal. Je pense pas que c'est l'idéal pour personne. T'sais, ce qu'on veut, d'abord, c'est 162 matchs, puis c'est notre équipe ici au Québec, avec notre monde, si Alex Agostino, si de notre monde peuvent trouver une job là-dedans en plus, tant mieux. Mais si c'est la seule façon de rentrer... Dans le truc, ben je me dis, regarde, on va prendre ce qui passe parce que là, en ce moment, on n'a pas de baseball à Montréal. Ce qu'on a, c'est du, malgré tout le respect, c'est du junior élite puis du senior élite. Fait que si on peut avoir un pied là-dedans, tant mieux. Je pense que le principal défi, ça va être, pour en avoir parlé à Michael Barrett, notamment, fin de semaine, le principal défi, c'est sûr que ça va être de faire avaler la pilule aux joueurs. T'sais, les jeunes joueurs, je pense que tu n'auras pas de problème assez de signer un gars à 30 millions. Qui va jouer la moitié de l'année à Tampa, la moitié de l'année à Montréal quand il y a 29 autres places où est-ce que tu peux jouer à la même année si le gars a une famille et des enfants. Ça va être compliqué, mais tu sais quoi? Commençons par avoir l'équipe, commençons par avoir le stade, commençons par profiter des beaux après-midi du mois de juillet en famille, au soleil, puis après ça, on essaiera de signer le gars à 30 millions. Puis voyons voir aussi si c'est pas juste une espèce de tactique pour qu'à Tempa, on a essayé, ça marche pas. On a construit un nouveau, je sais pas jusqu'à quel point ils peuvent tirer à plug en construisant un nouveau stade, mais en tout cas, c'est la seule façon qu'on peut y aller, ben, pas.
C'est peut-être ça aussi, hein. T'sais, on met un pied dedans, on a la moitié des matchs, puis là, au fil de 2, 3, 4 ans, on a tous les matchs après. Ça peut arriver. Puis il faut pas sous-estimer Montréal. J'ai rencontré plusieurs anciens joueurs, Marquise Grissom, entre autres, et d'autres joueurs qui ont joué, pas pour les expos, mais pour d'autres équipes. Puis Montréal est attrayante pour les joueurs quand même parce que bon, le nightlife est très présent. Certains clubs défailleuses sont populaires aussi, parce que je m'en faisais parler. La ville peut être belle aussi quand elle est présentée sous ses beaux jours et qu'il n'y a pas juste des cônes oranges. Tout ça là, fait que les joueurs aimaient Montréal. Puis j'ai pas rencontré un ancien joueur qui me dit que ça avait pas d'allure d'avoir une équipe à Montréal. Ça prend une équipe à Montréal parce qu'ils ont tous aimé leur expérience. Donc moi, je pense qu'à court terme, il faut continuer à y espérer. Puis regarde, c'est Franco qui a signé pour 10 ans? Le jeune arrêt court des
Rays. Ouais, Franco.
Écoute, je pense qu'on est en business. Là. On est en
business. Ça en fera un bon pour partir le truc à Montréal. T'as ton deuxième, troisième frappeur, puis t'as ton joueur d'arrêt court oublié. Je pense qu'on serait correct en partant.
Exactement. Écoute, Daniel, tu disais que tu joues encore. Tu joues l'été, toi, au baseball?
Je joue dans une ligue de garage, les boys, depuis... C'était notre 13e été, les mêmes à 4-5 joueurs d'exception. Là, c'est la 13e été qu'on joue ensemble à Repentigny.
Okay.
On a parti ça. Okay. Il devait avoir, à cette époque-là, là, il devait avoir, mettons, sur 13-14 gars, là, il devait en avoir 4-5 qui avaient jamais joué au baseball, mais des vrais maniaques de baseball. Puis finalement, ça fait 13 ans qu'ils jouent. Ils ont joué plus longtemps avec le même uniforme, sur le même terrain, qu'un parcours traditionnel là, de baseball mineur, probablement. Là, fait que ça, c'est vraiment cool. la moitié de l'équipe probablement est rendue avec des enfants. Ils font des roues latérales dans leur horaire pour essayer de venir le plus souvent. Puis écoute, on a. C'est de quoi que quand ça va arrêter, là, ça va être un gros bout qui va partir, parce que c'est assurément une des places depuis le début de ma vingtaine que j'ai eu le plus de fun. Là, baseball love ça aussi. J'ai joué au hockey toute ma jeunesse. J'allais jouer dans les ligues de garage, j'en passais dans les ligues de garage. Puis l'ambiance entre les deux sports, là, il n'y a rien à voir. Tu fallait jouer dans une ligue de garage pour te faire attendre dans le parking après la game par un gars qui prend trop ça au sérieux. Au baseball, tu verras jamais ça.
Tu vas prendre une bière, les gars, l'autre bord après.
Absolument.
Comment s'appelle ton équipe?
Les Giants de Repentigny.
Oh, okay. Repentigny by the Sea, j'aime ça.
Exactement. Puis non, ça a été, j'espère que c'est pas fini avant un bout. Puis ça a été vraiment, là, il y a de quoi de. Tu fais ta journée de travail, on a toutes des mauvaises journées, puis là, après ça, tu t'en vas jouer à la balle, tu prends une coupe de bière avec tes chums, puis tu joues la game comme si t'étais payé 15 millions par année, puis tu tournes un double jeu, t'es aussi content que le gars qui joue dans les majeurs, puis tu lances ça.
Tu tournes encore des doubles jeux?
Bon, si c'est frappé solide dans les mains, là, ça. si t'as pas trop à te déplacer, là, puis ton joueur de il est pas payé. Non, mais puis après ça, tu lances ça 5 pieds, puis tu te rappelles pourquoi tu payes au début de l'année, puis t'es pas payé. Mais tu sais, guess what, c'est le même fun qu'on a, puis ça, pour vrai, c'est un truc que je serais pas encore prêt à me passer.
Nice. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Dan, pour le futur à RDS ou dans ta carrière personnelle?
Écoute, on vient d'en parler. Je pense qu'il ne pourrait pas avoir un plus beau cadeau que le retour des Expos, que le retour d'une équipe à Montréal, puis d'être impliqué là-dedans. Tu sais, c'est sûr être payé pour couvrir le retour des Expos, puis un petit voyage, à San Diego ou à San Francisco pour couvrir l'équipe, puis parler de ça, puis pouvoir rencontrer du monde qui sont passionnés de ça aussi. C'est tout un bel environnement quand t'es là-dedans, que ce soit à matin ou que ce soit quand tu vas dans des événements comme en fin de semaine ou que quand tu peux aller parler à quelqu'un sur un terrain de balle. Fait que, c'est sûr que d'être payé pour mettre les pieds sur le gazon frais serait coupé au centre-ville, ce serait... Qu'est-ce que tu veux de plus,
hein,
professionnellement?
C'est pas le job, ça, là.
Non, mais il serait payé pour le faire, par exemple.
C'est ça qui est beau, là.
Fait que, évidemment, que ça serait pas mal. Le plus beau que moi, je pourrais avoir, mais probablement pas mal de monde aussi à Montréal puis au Québec pourrait avoir. Ça serait le fun. Ça serait le fun que dans les conditions optimales, on puisse au moins. Tu sais, évaluons si on est une ville de baseball avec des conditions optimales, avec un vrai stade dans le centre-ville, avec des. Pas un stade qui était supposé dépendre en attendant, puis finalement dure 30 ans. Évaluons, tu sais, au moins on n'est pas un marché de baseball, mais on va l'avoir aussi dans des vraies conditions, avec une équipe à temps plein, souhaitons-le, mais ce sera le fun de pouvoir le vivre pour le monde de mon âge, mais le monde des générations précédentes aussi qui s'ennuient de ça.
Ah, je suis tellement à la même place que toi. Puis ce qui est le fun aussi au baseball, là, c'est que on parle beaucoup du prix des billets du Canadien de Montréal. Là, ben, c'est pas mal certain là, qu'à 10-15 $, tu es dans le pile, là, mais tu vois super bien dans n'importe quel nouveau stade. Je suis allé souvent à Atlanta parce qu'on joue des tournois là-bas. Là. 10-15 $ le billet, tu es en haut, tu vois super bien. Tu as l'impression que tu es quand même proche à cause de l'effet. Comment la structure est faite. Puis c'est abordable. Ça veut dire que là, tu peux y aller 6, 7, 8 fois dans l'année. Tu te saignes pas, puis tu as la chance d'avoir du baseball professionnel. C'est tout le temps un bon show. On se le souhaite à tous. Merci beaucoup, Dan.
Plaisir. Ça a passé vite. Plaisir. Quand vous voulez.
La demi-heure passe tellement vite. Barbu, je te remercie beaucoup. On se revoit prochainement.
Merci.
Mercredi prochain, manquez pas Maxime Lamarche et Bob Rousseau, le roi des règlements de Baseball Québec. Et je vous invite à nous suivre sur tous les bons podcasts, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts et Radio H2O. Sur ce, bonne semaine et on se voit mercredi. Merci.
Salut les boys.
De la famille H2O Web Media.